Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission. L'émission de ce soir est consacrée au pouvoir de Ho'oponopono, nettoyer et transformer sa vie. Qui de mieux pour en parler avec mon invité Luc Baudin. Bonsoir Luc.
Bonsoir Zanico, bonsoir à tous. Et je pense qu'on ira encore beaucoup plus loin dans notre rencontre de ce soir. J'ai des projets pour ça.
Parfait, magnifique. Oui. Ok, eh ben, à toutes, je lance le générique et puis à tout de suite.
Ça marche.
Yes. Ok, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement ?
Rapidement, la version courte, parce que sinon…
Oui.
La version courte qui est très simple. Je suis un ancien médecin, je suis diplômé en cancérologie clinique, spécialiste en soins énergétiques, en médecine naturelle. Je suis par ailleurs auteur et conférencier.
C'est parfait. Alors, donc, oui, ce soir, l'émission de ce soir, on va aborder un sujet de Ho'oponopono, mais plus du côté dans l'amour, la droiture, le nettoyage, la spiritualité, et puis la loi de l'attraction, le chemin de vie, la relation avec les autres, ce que l'on veut et désire. Donc voilà, ça va être un sujet fort intéressant. Et donc bah, justement, avant de commencer, qu'est-ce que le Ho'oponopono ?
Qu'est-ce que le Ho'oponopono ? Est-ce qu'on peut aller un petit peu avant encore ? Un tout petit peu avant, si ça ne te dérange pas.
Allez-y. Vas-y, je t'en prie.
Non, mais tutoie-moi, c'est très bien.
Oui.
Oui. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai commencé à découvrir le Ho'oponopono avec les textes américains, hawaïens, etc. Et donc, là, j'ai compris, j'expliquerai un petit peu plus tard, plus loin, pourquoi ça a tout de suite répondu à mon idée. Et donc, j'ai commencé à travailler dessus et puis je me suis dit, je vais aller voir à la source, à Hawaï, comment que ça se passe, etc. Et là, j'ai eu la surprise de constater que, bien sûr, Ho'oponopono était connu, mais pas autant que ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et en fait, j'ai compris que Ho'oponopono était inscrit dans ce qu'on appelle la sagesse polynésienne. Donc ça, c'était ma première grande découverte, la sagesse polynésienne. Parce que, par exemple, quand le commandant Cook, l'anglais, ou le capitaine Cook, je ne sais plus son grade, est arrivé sur Hawaï, il a demandé aux Polynésiens, parce qu'on on peut parler hawaïen ou polynésien, parce que la Polynésie à l'époque faisait une surface gigantesque, on parlait du triangle polynésien qui avait Hawaï au nord, la Nouvelle-Zélande au sud-ouest, et puis l'île de Pâques à l'est, donc c'est une surface extraordinaire que sur lesquels voyager tranquillement les bateaux polynésiens. Et donc, quand il est arrivé là-bas, il a dit, mais comment vous l'appelez, l'océan qui vous entoure? Et il a dit, répondu, océan Pacifique. Donc, Cook, il s'est dit, pourtant, l'océan est pas spécialement pacifique, mais donc, ils doivent pas connaître beaucoup la mer, mais enfin, comme on le sait, comme je viens de le dire, les Polynésiens sont des grands marins, et il disait que c'était pacifique parce qu'en fait, tous les peuples qui habitaient sur les différentes îles étaient Pacifique. Donc c'était le nom. Donc ça, c'est parce que, et pourquoi? Parce qu'ils répondaient tous à la sagesse polynésienne. La sagesse polynésienne, et pourquoi? Et là, c'est là où j'ai compris, le Ho'oponopono en fait partie, parmi d'autres. Et donc il y a quatre points essentiels dans cette sagesse que je trouve géniale. La première, c'est le aloha. Donc, on ne dit pas « aloha », on dit toujours « aloha » avec un « h » expiré. Tout comme on ne dit pas « Ho'oponopono », on dit « Ho'oponopono ». Donc, c'est toujours des « h » aspirés. Et « aloha »,« aloha », c'est bien sûr « bonjour, au revoir », mais c'est bien plus que ça. Bien plus que ça. Et pour donner un exemple, ça me fait penser toujours à la réflexion qu'il y avait dans le film Avatar « Je te vois ». Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on rencontre, l'autre arrive, eh bien, on va s'arrêter, on va discuter, on va prendre plaisir de l'écouter, on va converser, on va le respecter, etc. Donc, ça va beaucoup plus que le simple bonjour, au revoir. Il faut bien comprendre que le ha, en plus, le ha chez les Polynésiens, on pourra peut-être en reparler aussi, c'est le souffle divin. Donc c'est très puissant comme donc c'était le aloha quelque part le premier élément de la sagesse polynésienne, c'était l'amour quelque part, l'amour de l'autre. Après ça, le deuxième, c'était le pono, et ça, c'est, on pourrait le résumer en intégrité, à la droiture, à la justice, etc. Le troisième volet, c'était le Ho'oponopono, justement. C'est pour ça qu'il était intégré dans la sagesse polynésienne. Et le Ho'oponopono, ça permettait d'aller nettoyer les parties sombres de notre être, les purifier, en fait. Et le quatrième volet, c'était en rapport avec la religion, c'est-à-dire qu'on peut dire au sens large, avec la spiritualité, le respect du divin, le respect des éléments, le respect de la nature, etc. Donc ça, j'ai trouvé cette sagesse absolument admirable et qui a prévalu pendant des siècles d'ailleurs là-bas. Et je me dis, mais si on avait aujourd'hui cette sagesse polynésienne sur toute la Terre, on pourrait faire là encore une terre pacifique magnifique. Ce serait plus l'océan Pacifique, ce serait la terre Pacifique. Ce serait génial. Donc, c'était là-dessus. Et après, j'ai commencé à aller voir un petit peu plus du côté de Ho'oponopono. Et comme je le disais tout à l'heure, quand j'ai lu les premiers traités sur le Ho'oponopono qui était en américain, et là, ça a tout de suite fait tilt en moi, parce que en même temps, j'étais en train de lire des traités de physique quantique qui étaient en train de m'expliquer, et il y avait Hubert Reeve qui est décédé il n'y a pas très longtemps, et je le salue parce que c'est une belle âme, un être magnifique qui est parti. Et donc Hubert Reeve disait l'univers, le monde, notre environnement ne prend sa forme que sous notre regard, sous notre pensée. C'est-à-dire que avec notre pensée, nous créons ce qui nous entoure. Et inversement, on pourrait dire ce qui nous entoure, c'est nous qui l'avons attiré et créé par notre pensée. Par exemple, on sait qu'un électron, si personne ne le regarde, eh bien le noyau, c'est un flou énergétique. Un flou énergétique qui est à la fois ici, là et partout. L'électron qui l'entoure est pareil. Un flou énergétique qui est ici, là et partout. Et c'est quand on le regarde, quand il y a une présence, quand il y a une pensée, qu'à ce moment-là, il prend la forme que nous lui connaissons. Et donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était tout simplement que mes amis psychologues, psychiatres, médecins en général aussi, eh bien, ils le savent bien, ils disent toujours, on a un conscient et on a un inconscient. Et ce n'est pas celui que l'on pense qui nous dirige. En d'autres termes, nous sommes dirigés par des pensées inconscientes. Donc, il y a d'un côté la pensée qui crée, avec les physiciens quantiques. De l'autre côté, la psychiatrie, la psychologie dit c'est notre inconscient qui nous dirige, sur nos pensées inconscientes. Et là, d'un seul coup, on comprend que eh bien, nos pensées inconscientes ne sont pas toujours très favorables pour nous. Du genre, on peut avoir des croyances qui nous ont été inculquées depuis notre tendre enfance, comme quoi on est nul, comme quoi on n'y arrivera jamais à rien, comme quoi le monde est méchant. Il y a plein de croyances. Et donc, ça, nous allons attirer à ce moment-là les situations inconscientes et pensées inconscientes dans notre vie et faire qu'on va vivre des situations désagréables. Donc, avec Ho'oponopono, pour donner le principe, c'est que nous sommes avec nos pensées, avec nos belles pensées, des pensées positives, etc., on se crée une vie, un environnement, un univers merveilleux. Avec des pensées erronées, avec des croyances erronées, des valeurs erronées, etc., on va se créer des problèmes. Mais si on change nos pensées, nos croyances erronées, etc., à ce moment-là, on va changer l'environnement et à ce moment-là, on va pouvoir de nouveau se créer quelque chose de beau. Voilà, c'est le principe de Ho'oponopono.
Ok. Et justement, dans chaque partie du Pacifique, c'est-à-dire aussi bien du côté de l'île de Pâques ou de Nouvelle-Zélande, est-ce que le Ho'oponopono a la même importance pour dans ces différentes régions?
Là, je ne peux pas répondre pour toutes les régions, mais je peux répondre parce que, bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la sagesse polynésienne et le Ho'oponopono étaient, la première fois au début, étaient utilisées par les tribus quand il y avait des problèmes. Donc, c'était une technique communautaire, là, je dirais quelque part. C'est-à-dire que quand il y avait un problème, on réunissait les protagonistes pour discuter. C'était souvent le kahuna, le prêtre, qui les réunissait, ou le chef du village, pour discuter et trouver une solution. Et si après quelques heures, quelques jours, ils n'avaient pas trouvé la solution, il y avait un jugement qui était fait, ce qui était assez rare, ils trouvaient quand même les solutions comme ça. Donc ça, c'était une sagesse ancienne, et quand les Européens sont arrivés, en particulier les prêtres catholiques et protestants, ont tout annulé, ont tout arrêté, et donc ils ont instauré la religion que l'on connaît, ils ont instauré un ordre, etc., et ils ont fait en sorte de faire disparaître tous ces éléments de la tradition. Donc, il a fallu beaucoup de temps pour que ça revienne. Et c'est revenu, ça revient plus fortement à Hawaï qu'ailleurs. En Polynésie, il y en a, les Kahuna le connaissent, ils connaissent le Ho'oponopono, ils connaissent les... Mais c'est pas ça, à mon sens, ça se vit pas aussi d'une manière aussi importante que peut l'être à Hawaï. Et dans toutes les îles, par exemple, Il y a le aloha, mais il ne va pas se dire les phrases qu'on retrouve aujourd'hui, les mots qu'on retrouve dans les différentes îles, au Tonga, au Fidji, etc. C'est pas tout à fait la même chose. Un peu comme en Polynésie française, on va parler de Johanna. Donc, on ne va pas parler de aloha, mais c'est les mêmes mots qui ont été déformés avec le temps. Et donc, il a fallu du temps pour que cette sagesse ressorte. Et les Polynésiens en sont très fiers aussi derrière. Hein. Donc, elle demande qu'à revivre quelque part. Moi, je l'avais vu il y avait quelques années, il y avait eu un dessin animé de Walt Disney sur qui se passait en Polynésie, si je me souviens bien. Et les Polynésiens ont adoré ce film parce qu'ils faisaient revivre leur tradition et ressentaient leur tradition, même si c'était un Walt Disney, c'était quand même très beau. Donc, on retrouve un petit peu ça partout, mais le Ho'oponopono, je ne dirais pas le mot tahitien, mais il y a une tradition qui est proche. Ça s'appelle pas le Ho'oponopono, mais c'est un nom polynésien dont je ne me rappelle plus, mais qui veut dire viens, on a un problème, viens t'installer à ma table, on va manger, on va discuter. Donc c'est ça le Ho'oponopono traditionnel en fait. Hein. Donc, on retrouve des similitudes entre les différents endroits, c'est clair.
Oui, c'est vrai qu'en plus, c'est intéressant parce que c'est vrai que des fois, il suffit d'un petit peu, c'est-à-dire, il suffit pas grand-chose, hein, boire un petit verre si on a une personne avec qui on n'est pas d'accord, mais tu t'installes à côté de lui avec un petit verre en buvant, tu peux régler plein de choses,
bien sûr.
Quelque chose de simple.
Là, c'est quelque chose de simple. À partir du moment où on est dans l'esprit aloha, c'est-à-dire qu'on est conscient que l'autre est différent de nous, il a d'autres points de vue qui sont pas forcément meilleurs ou moins pires ou pires que les nôtres, et ça, il a son point de vue, on a le respect de l'autre, et puis on n'est pas dans le jugement. Et c'est ça aussi qui est important, parce que si on le voit bien, s'il y a quelqu'un, on commence à lui dire « mais c'est nul ce que tu racontes, mais c'est n'importe quoi, tu ne vaux rien », etc. L'autre, il va monter au créneau, c'est évident. Si par contre on lui dit « toi tu penses comme ça, moi j'aurais plutôt vu comme ça ». Et donc là, on ne juge pas l'autre, mais on donne son opinion. Et ça permet d'ouvrir justement le dialogue. Et souvent d'ailleurs, ce que tu me dis, je le conseillais quand j'étais… en médecine, parce que quand il y avait des tensions au niveau des couples, je leur disais, bon, allez, vous partez avec votre mari, à votre femme, vous allez au restaurant un soir, vous laissez la garde à votre belle-mère pour les enfants, et puis vous allez parler, dire un petit peu quels sont vos rêves, et vous allez certainement vous apercevoir qu'ils sont toujours pareils. Mais ils ont perdu un petit peu, et comme il n'y a plus la discussion ou la communication comme il pouvait y avoir avant, l'autre, on commence à gamberger, que l'autre pense différemment, etc., et on commence à se séparer. Mais si on prend le temps simplement de communiquer, de dire son point de vue, moi je rêve de ça, tu rêves de ça, mais moi aussi, et donc Ah ben on est fait pour s'entendre, on va se marier. Ben non, on est déjà mariés.
Mais c'est fort intéressant parce que tu vois qu'à l'école, avec les enfants, on leur inculquerait rien que ça. Ben les enfants, ils pourraient faire, comment dire, exploser des montagnes, gravir des montagnes, tellement qu'on leur. Ben c'est surtout ça, on leur donne leur capacité, on leur dit, mais si tu es capable, tu peux le faire, en les encourageant.
Eh oui, moi je voyais ça aussi beaucoup avec quand j'étais en Australie, parce qu'évidemment j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie, j'ai vécu en Polynésie, donc j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois en Nouvelle-Zélande, en Australie. Et en Australie, j'étais assez impressionné par l'éducation qu'ils donnaient à leurs enfants. Par exemple, il y avait un petit gamin qui marchait sur un muret, et puis les parents le laissaient faire. Et puis nous, en France, il y a tout de suite un parent qui serait là, donne-moi la main, donne-moi la main. Et puis, il y avait aussi un petit gamin qui faisait de la trottinette dans les jeux où ils font du skate, du skateboard, etc. Donc lui, il faisait ça en trottinette, et puis à un moment, il tombe. Et puis son père était un peu plus loin, il lisait, donc très tranquillement, il laisse tomber son livre, il va vers son fils, et puis au lieu de lui dire, oh là là, t'as mal, mon pauvre chéri, reviens, je vais te faire un pansement, etc. Et il lui a dit, non, non, bah tu vois, là t'es tombé parce que t'as pas démarré dans le bon sens, t'as pas pris le bon angle, t'as pas pris le meilleur. Donc, et là, tu vas remonter, tu vas voir si tu vas y arriver, et ça va être parfait. Donc c'est aussi une autre manière de ne pas mettre aussi les enfants sous cloche, et ça, faut leur laisser l'opportunité de. C'est nous qui créons la peur. Nous qui créons la peur. Un peu, moi je riais parce que j'habitais en Normandie et puis les personnes me disaient, ah oui, moi j'ai peur de l'orage. Hein. Donc quand il y a un orage, je dis à mes enfants, n'aie pas peur de l'orage, n'aie pas peur de l'orage. Vous êtes en train de lui faire une frousse pas possible et lui dire, regardez, quand vous amenez le camembert sur la table, vu qu'on est en Normandie, vous mettez le camembert sur la table, vous lui dites pas, n'aie pas peur du camembert. Ben non, pourquoi je dis.
Et pourtant, c'est bon le camembert.
Et pourtant, c'est bon, mais quand il y a la boîte qui s'ouvre.
Ouais. Alors, comment la pratique de Ho'oponopono favorise-t-elle l'amour envers soi-même?
Ben ça, c'est un vaste sujet, parce qu'il faut revenir un petit peu, je disais déjà que nous sommes les créateurs. Donc là, c'est un point qui est très important parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident que nous sommes les créateurs de tout ce qui nous arrive dans notre vie. Et ça, par exemple, quand il y a une altercation avec quelqu'un ou avec son conjoint, sa conjointe, c'est jamais nous qui avons tort, c'est toujours l'autre qui a tort. Et donc, ce n'est pas à nous de changer, c'est à l'autre, puisque c'est l'autre qui a tort. Et donc là, d'un seul coup, on prend la responsabilité. C'est nous qui avons créé cette situation. Là, je veux dire que ça resserre le col. Des fois, c'est difficile à admettre, mais il faut passer ce cap-là. Il faut passer ce cap-là, et ça, c'est très important parce que si nous ne sommes pas, si nous sommes le créateur, c'est que nous ne sommes plus la victime. Ça change tout. Ça veut dire que nous avons le pouvoir sur la situation. Parce que quand d'un autre côté, si c'était la responsabilité, si c'était à cause de je sais pas, de mon patron, de mon conjoint, de ma conjointe, du gouvernement, que sais-je, bah évidemment, on n'a plus qu'à croiser les bras et attendre que le patron, le conjoint, la conjointe, le gouvernement fassent quelque chose. Et on peut attendre longtemps. Par contre, si on considère que c'est nous qui avons amené cette chose-là dans notre vie, si on l'a amenée, on peut l'enlever. Parce que nous avons ce pouvoir-là. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se faire? C'est que toutes les situations qu'on va vivre dans notre vie vont permettre d'élaguer, toutes les situations négatives, je veux dire, vont permettre de nous montrer qu'on a des croyances erronées qui ont attiré cette situation. Avec Ho'oponopono, on va les effacer. Si bien qu'au fur et à mesure d'effacement en effacement, on va permettre de faire ressortir notre être véritable. Voilà, qui est enfoui hein, derrière un tas de croyances et ou de vécus qu'on a, parce qu'il y a pas que de, il y a les croy, il y a les, il y a bien sûr les croyances qu'on nous a données avec notre éducation, que ce soit familiale, religieuse, scolaire, universitaire, etc. Mais il y a aussi tous les vécus qu'on a vécu, et donc d'un seul coup, quand on a vécu une situation délétère, on va tout de suite considérer que le monde est méchant, le monde m'en veut, etc., etc. Mais là, par contre, donc on revient sur, on purifie notre être au fur et à mesure, et on revient véritablement sur ça. Et c'est vrai que Ho'oponopono, avec Ho'oponopono, on utilise la gomme de l'amour, comme on dit, pour effacer justement ces éléments, parce que c'est le premier Ho'oponopono, parce que je parlais du Ho'oponopono traditionnel, et puis justement dans les années 1950 à peu près, je ne connais pas la date exacte, mais vers le milieu du XXe siècle, il y a Morna Ibn Simeona qui a repris le Ho'oponopono, qui en était un instrument traditionnel et communautaire, mais elle en a fait un Ho'oponopono qui peut se faire individuellement. C'est-à-dire que quand on a un souci avec quelqu'un, on n'a pas besoin de faire venir ce quelqu'un pour faire Ho'oponopono. Il suffit qu'on efface notre propre croyance erronée, et on n'a pas besoin de l'autre pour cela. Et donc là, au fur et à mesure, on va effacer avec le Ho'oponopono classique, c'était « désolé, pardon, merci, je t'aime »,« désolé, désolé d'avoir créé cette situation », mais j'en suis pas désolé pour les autres, j'en suis désolé pour moi, c'est moi qui l'ai créé. Pardon, pardon, pas aux autres, mais à moi-même. Et puis, merci à la vie de m'avoir montré aussi, grâce à cette situation délétère, que j'avais un problème en moi que je ne connaissais pas. Et puis, je t'aime, je m'aime, et c'est malgré tout ce qui s'est passé, ben, je reste dans l'amour de moi-même. Et c'est ça. Et donc ça, c'est toujours, même si on a eu du mal à accepter d'en être le responsable, on sait qu'on l'a fait d'une manière non volontaire, d'une manière inconsciente. C'est évident qu'on ne va pas s'attirer les situations désagréables pour le plaisir. On ne va pas se lever le matin en se disant « Tiens, aujourd'hui, si je me faisais un bon petit conflit avec le voisin, ça pourrait m'occuper ma journée. » Personne ne pense à des choses pareilles. Et donc, c'est des choses involontaires, mais malgré tout, on s'aime et on se pardonne de tout ça.
D'accord. Et justement, cette pratique, pour une personne qui souhaiterait la pratiquer, et justement de pouvoir gommer cette partie sombre, est-ce que ça prend du temps justement à trouver cette partie sombre ?
Alors, l'élément intéressant et important, et que mes amis psychologues et psychiatres sautent au plafond quand je leur dis ça, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de connaître le programme ou la croyance ou la valeur erronée pour l'effacer. Donc ça, c'est quelque chose qui est génial parce que ça permet d'aller très très vite. Alors, je parlais tout de suite qu'il y avait le Ho'oponopono classique avec « désolé, pardon, merci, je t'aime », mais personnellement, moi, j'ai vu qu'il y avait des dérives, en ce sens que beaucoup de personnes faisaient ça un peu comme un mantra, magique, désolé, pardon, merci, je t'aime. Il faut prendre absolument conscience du sens de chaque mot. Mais avant tout ça, avant même de dire désolé, pardon, merci, je t'aime, il faut prendre la responsabilité. C'est moi qui ai attiré cette situation. Donc, si on n'a pas pris cet élément en compte au départ, après ça, on peut prendre les quatre mots, mais c'est pour ça qu'au fur et à mesure, je me suis aperçu qu'il y avait des dérives, il y avait même des gens qui se mettaient en colère sur Internet. Moi, j'étais des groupes, moi je m'en occupais pas, mais je les voyais de temps en temps, et en sens, oui, pardon, c'est judéo-chrétien, oui, mais c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le faire, oui, mais ça veut pas forcément dire ça, etc. Donc il y avait plein de querelles, alors que Ho'oponopono, c'est justement la tolérance et l'amour, c'est exactement l'inverse. Seulement, moi je me suis aperçu que si j'interrogeais les personnes qui faisaient Ho'oponopono, ils avaient perdu tout simplement le sens de Ho'oponopono. Pourquoi on fait Ho'oponopono ? Ben, c'est parce qu'on a une situation désagréable et on veut la changer. Oui, mais pourquoi et comment on va la changer ? Pourquoi ? Quel est le principe de Ho'oponopono ? Et là, ils n'arrivent pas. Il y avait beaucoup qui avaient oublié tout simplement que je prends la responsabilité parce que c'est moi qui l'ai créé et que j'ai une mémoire erronée et Ho'oponopono va me permettre de l'effacer. Et donc, il y avait une oubli de tout ça, et c'est pour ça que il y avait des petites choses comme ça qui me dérangeaient dans le Ho'oponopono classique traditionnel. J'ai écrit un livre sur le Ho'oponopono traditionnel, je ne le renie pas parce qu'il est toujours aussi efficace si on le suit bien. Mais il y avait des petites choses qui me gênaient, en particulier le pardon. Le pardon, parce qu'on n'a pas besoin de pardonner aux autres, vu qu'ils n'y sont pour rien, c'est nous qui avons la responsabilité, on est bien d'accord. Alors évidemment, on peut se pardonner à soi-même, oui, c'est vrai, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, mais seulement, comme on ne l'a pas fait volontairement, on l'a fait inconsciemment, est-ce qu'on a vraiment besoin de se pardonner quelque chose? Alors, je suis parti comme ça en Polynésie, en me posant des questions sur différents aspects du Ho'oponopono. Et là, j'ai rencontré une femme qui était professeure de français polynésien. Et elle m'a dit, mais tu sais, Luc, le mot polynésien, qu'on traduit habituellement par « pardon », a aussi une autre signification. Il veut dire aussi « effacer quelque chose de sombre en nous ». Et ça, c'est Ho'oponopono. Ça, c'est vraiment effacer la partie sombre en nous qui a attiré cette situation. Et donc ça, c'est vraiment, et c'est pour ça que là, j'ai retravaillé un petit peu le Ho'oponopono pour remettre en premier l'effacement de cette croyance erronée. Et en plus, je me suis aperçu aussi que si on efface la croyance, on efface un peu la partie émergée de l'iceberg. En sens que une croyance, pour qu'elle devienne croyance, pour qu'elle ait un vécu, pour qu'il devienne douloureux, etc., il a fallu un certain nombre de situations qui l'ont précédée, qui ont fini par déclencher cette croyance, qui ont fini par déclencher le fait que ce soit douloureux dans telle situation. Donc, si on efface que le final, bien sûr, on va soulager la situation. Mais ça peut revenir, vu que tout le cheminement est toujours là. Donc, l'intérêt est aussi de revenir jusqu'à l'origine première. Alors, avec le Ho'oponopono nouveau, que j'ai appelé le Ho'oponopono nouveau, ça permet, il y a une petite phrase qui permet de transmuter. On n'efface pas, on la transmute, parce qu'autant la transmuter en quelque chose de positif plutôt que de l'effacer tout simplement. On demande la transmutation des croyances erronées jusqu'à leur origine première, qui ont été à l'origine de ce problème, du problème 1, et on demande qu'elle soit transmutée en éléments positifs pour nous, pour notre vie, notre futur. Alors c'est vrai que quand on au début c'est une phrase un petit peu longue, mais au fur et à mesure qu'on va la répéter, à ce moment-là on va faire un petit tour, on va pouvoir la simplifier. Au fur et à mesure, je demande la transmutation des mémoires négatives en mémoires positives, des mémoires négatives en mémoires positives, négatives en positives, négatives. Et à chaque fois, on transmute, on fait des tours de spire comme ça, et pour jusqu'à aller à l'origine première. Alors, en général, ça prend dans les 5 minutes, 10 minutes, pour aller vraiment en une seule fois jusqu'au bout du compte. Parce qu'avec l'autre Ho'oponopono, ça pouvait prendre du temps, en sens que ça pouvait prendre plusieurs jours, plusieurs semaines à faire ça. Et l'intérêt aussi, c'est que, enfin plutôt pas l'intérêt, c'est qu'il peut y avoir des choses qui sont troublantes. C'est que je me rappelle, il y avait un petit truc qui m'était arrivé, pas très méchant, puis je me dis, tiens, allez, je vais faire quand même Ho'oponopono pour effacer la mémoire qui l'a amené dans ma vie. Et là, je me suis aperçu, et ça, c'était une des fois, c'était la fois où j'ai fait où j'en ai eu besoin de plus de temps. Il a fallu que je fasse 3 séances de 15 minutes, enfin, une séance de 15 minutes pendant 3 jours. Donc ça, c'était le maximum que j'ai fait. En général, c'est 5 minutes, 10 minutes à tout casser, etc. Et ce qui est génial aussi, c'est parce qu'en fait, pourquoi ce petit truc, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Il y avait un gros truc derrière, un gros problème derrière, et le petit machin était me paraissait insignifiant, mais c'était... Et donc, en général, c'est 5-10 minutes, et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure qu'on répète, quand est-ce qu'on sait que c'est fini? Quand est-ce qu'on sait que c'est fini? Eh bien, c'est ça qui est aussi magique, c'est qu'à un moment de on va sentir quelque chose qui lâche. On va sentir un état de bien-être, on peut sentir une chaleur, moi je vois souvent aussi une lumière blanche, et c'est au fur et à mesure, je rentre dans cette lumière blanche, et quand je suis dans cette lumière blanche, là je sais que c'est fini. Donc on a des signes qui nous indiquent, notre être intérieur nous indique que c'est terminé en fait, qu'on est arrivé au bout du bout. Voilà. Et là, l'intérêt c'est que ça ne pourra pas revenir, parce qu'on a été vraiment jusqu'à l'origine première. Et ça, c'est génial. Moi, j'adore.
Donc, en fin de compte, on peut dire que, en quelque sorte, en général, c'est quelque chose qui s'est passé, mais quand on décortique un petit peu avec la ficelle, on voit qu'il y a quelque chose de plus loin qui est beaucoup plus profond. Mmh. Et c'est là qu'il faut creuser et qu'il faut travailler.
Oui, tout à fait, parce que c'est très simple. Pour une même situation, Même situation. Il y a des personnes qui vont considérer la même situation de négative, disons. Eh bien, il y a des personnes qui vont considérer que c'est un désagrément, bon, mais qui va passer, c'est pas bien méchant, et que bon. Et il y en a d'autres, ça peut être l'épreuve la plus terrible de leur vie. Et pourquoi c'est l'épreuve la plus terrible de leur vie? C'est que ça réveille en eux toute une souffrance, tout un cheminement de souffrance, de vécu, de valeur, et qui fait que ça a rendu cette situation insupportable pour eux, alors que pour d'autres, c'est une situation désagréable, mais comme quand on nous pique une place de parking, je veux dire, c'est pas, on s'en remet. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur ce cheminement, et c'est ce qui manquait, à mon sens, dans le Ho'oponopono classique, parce que on travaillait surtout, à mon sens, sur la croyance finale, mais pas tout parce qu'il y a souvent ce qu'on appelle le programmant. Donc, qui est derrière tout ça et qui a fait que cette situation était difficile. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'inversement, on peut, si on pousse le bouchon, je pousse le bouchon exprès, si on pousse le bouchon, on pourrait dire que toutes les situations, on peut remercier la vie de nous apporter des situations désagréables. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une situation désagréable, ça nous fait comprendre qu'on a quelque chose de négatif en nous et qu'on va, comme ça, pouvoir le faire disparaître. Et ça, c'est pas facile à admettre toujours, on est bien d'accord, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Et pour que les spectateurs comprennent bien, je donne souvent l'analogie pour Ho'oponopono de l'ordinateur. Vous ouvrez votre ordinateur et vous dites, tiens, je vais aller regarder un film sur ce que vous voulez. On ne va pas donner de nom, on ne va pas faire de pub. Et donc, vous ouvrez un film, vous ouvrez ce canal et puis vous voyez plein de films, vous en choisissez un, vous l'allumez, vous le regardez. Et puis, au bout de 5 minutes, vous dites, mais qu'est-ce que c'est imbécile ce film? Mais ça ne vaut rien, mais je m'ennuie, mais c'est mal joué, et puis ce n'est pas intéressant, etc. Et là, quand vous êtes comme ça, vous n'êtes pas, vous n'avez pas commencé par enguirlander l'ordinateur. Vous savez bien que l'ordinateur, il est pour rien. Et donc, vous n'allez pas enguirlander les acteurs. Les acteurs, ils sont partants, ils ne sont pas là, etc. Et donc, vous savez bien que c'est vous qui avez allumé le film. Donc, si vous l'avez allumé, quelque part, vous êtes le créateur. Et si vous l'avez allumé, à ce moment-là, vous pouvez l'éteindre, le mettre dans la corbeille et en allumer un autre. Et comme le suivant a des fortes chances d'être moins imbécile que l'autre, que le précédent, a priori, au moins à vos yeux. Et donc, et c'est ça le principe de Ho'oponopono. Quand on a une situation, on n'enguirlande pas l'ordinateur, c'est-à-dire qu'on n'enguirlande pas les autres. Les autres, ils sont pour rien. Et donc, par contre, on sait que c'est une croyance erronée qui nous a amené ça, donc on la prend, on la met dans la poubelle, et à ce moment-là, la vie va reprendre son cours avec les aléas qu'on lui connaît. Mais c'est un peu l'analogie avec le Ho'oponopono. Là, vous êtes le seul maître de votre ordinateur, et là, de la même façon, vous êtes le seul maître de ce qui vous arrive dans la vie. C'est pas facile.
Oui.
Il y a une petite chose aussi que je voudrais ajouter, parce que on est dans un monde quand même qui est très judéo-chrétien, c'est que quand on parle de responsabilité, on parle tout de suite de culpabilité. Oui, j'ai amené cette situation dans ma vie. Donc, j'ai fait, à cause de ça, j'ai fait souffrir les autres. Je suis coupable. Eh bien, je vous dirais non. Pourquoi? Parce que d'abord, vous l'avez fait inconsciemment. Déjà, quelle est votre culpabilité? Mais aussi, si vous prenez maintenant le point de vue des autres, si les autres ont amené ça dans leur vie à eux, c'est qu'ils ont une croyance erronée qui l'a amené. Donc, c'est pour ça qu'il y a des jeux de miroir qui se font, on est bien d'accord, mais ça n'empêche que les autres vivent des situations désagréables. Peut-être que nous avons généré une situation, mais si eux l'ont vécu, c'est parce qu'eux-mêmes l'ont attiré dans leur vie. Ho'oponopono fonctionne aussi pour eux. Donc ça fait un ensemble, un jeu. Et il y avait une analogie que j'ai donnée d'ailleurs dans ma dernière newsletter. C'était une personne qui sort de chez elle pour aller bosser, et puis elle croise son concierge. Et sur son concierge, elle voit une grosse tache noire sur la joue. Elle est pas, elle n'ose pas trop lui dire quoi que ce soit, elle continue son chemin, elle va dehors, il y a son ami qui l'attend pour partir au bureau avec elle, et qu'est-ce qu'elle voit? Lui aussi avait une grosse tache noire. Donc, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, attends, tu as une tache noire, là, je vais te l'enlever tout de suite. Donc, elle sort un Kleenex et puis elle frotte en essayant d'enlever la tache noire. Et elle n'y arrive pas. Et puis, il y a son ami qui lui dit, mais dis, attends, mais toi aussi, tu as une tache noire. Comment ça, j'ai une tache noire? Ah, j'ai une tache noire. Ah oui, j'ai une tache noire. Donc, elle prend un autre Kleenex, un autre mouchoir en papier et elle essuie. Là, la tache, elle s'en va. Là, la tache, elle s'en va. Mais qu'est-ce qu'elle s'aperçoit? C'est qu'au fur et à mesure que la tâche, elle s'en va sur elle, elle s'en va aussi sur l'autre. Parce que l'autre est notre miroir. Quand on voit des défauts sur l'autre, on a tendance à vouloir changer l'autre. On veut effacer, on va effacer ta tâche, et là, tu vas changer, là, tout va bien aller. Alors que c'est à nous de changer si on veut changer l'autre. C'est des belles leçons, tout ça, que nous apprend Ho'oponopono, la sagesse polynésienne, etc. Donc et ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'Ho'oponopono, et j'insiste aussi là-dessus, c'est sur deux choses. La première chose, c'est qu'on ne fait pas Ho'oponopono pour les autres. On ne fait Ho'oponopono que pour soi. C'est-à-dire que j'avais une personne qui m'a envoyé un mail en me disant « Dites donc, docteur Baudin, j'étais docteur encore à ce moment-là, et dites donc, docteur Baudin, j'ai mon mari qui vient d'être atteint d'un cancer, je vais faire Ho'oponopono pour qu'il guérisse. » Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ou ça a peu de chances de marcher, ça peut marcher, mais ça... Parce que, je lui ai dit, plutôt que de faire ça, vous allez faire, c'est une situation désagréable que vous vivez, votre mari la vit bien sûr, mais vous aussi, vous vivez une situation désagréable à travers sa maladie, et donc vous pouvez faire Ho'oponopono sur les mémoires erronées qui ont amené cette situation-là dans votre vie. Et qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va faire, il y a deux possibilités qui vont arriver, c'est là toute la... Il va y avoir quelque chose de bien qui va se produire, mais on ne sait pas quoi. Soit ça va changer la situation, soit ça va faire que la situation ne sera plus conflictuelle pour la personne. Mais donc, à ce moment-là, ce sera tout à fait gérable et vivable. J'avais une personne qui m'avait amené ça un jour sur un plateau. J'étais en train de terminer une conférence et puis elle me dit « Oh, docteur Baudin, vous avez écrit Ho'oponopono, c'est bien, c'est merveilleux, c'est génial, je l'ai sur ma table de nuit, je le lis tous les soirs, etc. » Puis elle ajoute en me disant « Oui, mais Ho'oponopono, ça ne marche pas pour moi. » Je lui dis « C'est dommage de faire un peu, mais ça ne marche pas. » Elle dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « J'ai un gros problème dans la vie, un gros problème professionnel. Alors je fais Ho'oponopono. » Et puis, il est toujours là. Et puis, elle a à peine fini sa phrase, quelqu'un qui ajoute « Oui, mais maintenant, je m'en fiche complètement. » Donc, c'est ça. Le problème est toujours là, mais pour elle, ce n'est plus un conflit. CQFD. C'est tout. Voilà. Donc, on ne sait pas cette femme qui va faire pour son mari qui a le cancer. Peut-être qu'elle va accepter la situation grâce à cela. Elle va mieux la vivre, elle va mieux la tolérer. Ou alors, grâce à cela, elle va peut-être que l'état de santé de son mari va s'améliorer. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on sait que ce sera positif. Et c'est ça qui est génial. Donc, ça, c'est pour ça. Un, ne jamais faire ça pour quelqu'un d'autre. On fait toujours que pour soi. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut faire Ho'oponopono pour effacer la mémoire erronée sans attente. Bien sûr, on espère toujours que ça va solutionner le problème. Inconsciemment, on est tous pareils. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas forcément ça.
Et justement, quand toi, tu l'as découvert, cette pratique, le Ho'oponopono, et actuellement, est-ce que tu as vu que ça s'est beaucoup développé, mais en France?
Oui. C'est-à-dire, on a été même surpris parce que quand j'ai découvert Ho'oponopono, j'ai rencontré aussi une femme qui travaillait beaucoup avec Ho'oponopono et qui était Maria Elisa Hurtado Gracier. Et puis, je lui ai dit, cette technique est géniale. Donc, il faut essayer, on va écrire un livre pour la faire connaître. Et on ne pensait pas que ça allait prendre une telle ampleur au niveau français, voire international également. Et c'est vrai que ça a répondu aussitôt à beaucoup de personnes qui ont trouvé un soulagement immédiat, parce qu'on peut le faire sur des petites choses. Moi, il y avait une journaliste qui avait écrit un article qui expliquait qu'elle avait eu une altercation avec son amie alors qu'elle vivait une belle histoire d'amour et Et quand elle rentre au bureau, elle dit « je vais faire Ho'oponopono » pour... Et elle a fait à peine Ho'oponopono deux, trois fois que d'un seul coup, son ami était en train de lui téléphoner pour demander la réconciliation. Donc, ça peut aller très vite, très vite. Donc, pour les petites choses et choses comme ça, donc ça peut aller très vite pour les choses, il y a des fois plus importantes. Et comme je dis, de temps en temps, il y a des petites choses, mais il y a l'arbre qui cache la forêt de temps en temps.
Oui. Justement, en quoi la droiture est-elle intégrée dans le processus d'Ho'oponopono?
Parce que si on prend l'étymologie polynésienne de Ho'oponopono, le haut, c'est mettre en action, mettre quelque chose en action, mettre en mouvement une action. Le pono, comme je l'ai dit, c'était l'intégrité, la droiture, la justice, l'équité, etc. Pour les Polynésiens, c'est tellement important, le pono, qu'ils l'ont même doublé. Pono, pono. Donc, c'est Ho'oponopono, c'est remettre droit, remettre dans la droiture, remettre dans la justice, remettre dans l'équité. C'est ça ce que ça veut dire, le Ho'oponopono. C'est en effaçant l'élément négatif, on va se remettre sur le droit chemin.
D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est important parce qu'une fois que tu as rayé, tu as gommé la partie sombre, il ne reste plus qu'après la droiture.
Voilà. Et c'est vrai que il y a le non-jugement, l'intégrité, les sentiments de compassion, etc. Tout ça, ça devrait être des éléments qui dominent notre vie. On parlait du jugement tout à l'heure, mais il faut sortir de ce jugement. Le jugement, on l'apprend aux enfants dès le plus jeune âge. C'est bien, c'est mal, donc on nous l'apprend dans tout, au niveau religieux, on nous l'apprend même au niveau des médias. On nous fait toujours des jugements en tranchée, alors que la notion du bien et du mal n'est pas vraie. En ce sens, il faudrait plus la considérer comme le bon et le mauvais. Et en fait, le bon peut être mauvais à certains moments et le mauvais peut être bon à d'autres moments. Le feu, il est bon parce qu'il me réchauffe. Mais par contre, il est mauvais parce que d'un seul coup, il peut me faire le feu à la maison. Donc, c'est un peu tout le problème qu'il peut y avoir au niveau du bon et du mauvais. Pour moi, c'est un peu comme l'ombre et la lumière, c'est comme le yin et le yang, c'est deux facettes d'une même pièce, c'est un tout. Et il y a, comme disent les Chinois, il y a du yang dans le yin et du yin dans le yang, etc. Donc, c'est très important de comprendre que tout est bien lié ensemble.
Et donc,
il faut pas. C'est pour ça que de notre vie, en fait, là, je parle pas des croyances erronées, etc., mais du sombre et de la lumière, de l'ombre et de la lumière. On a toujours une partie secrète, une partie. C'est pas forcément une partie d'ombre, mais on a toujours des désirs, des envies plus ou moins secrètes qui font partie de nous. Mais le but, c'est pas de les effacer non plus. Le but, parce qu'elles ont aussi, elles peuvent avoir aussi une importance à certains moments de les ressortir, parce que le but est plutôt de. On peut pas effacer l'ombre. On peut pas imaginer de vivre que dans la lumière, du moins pas dans cet univers duel. Par contre, ce qui nous est demandé, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Voilà.
C'est ça.
Entre les deux, en considérant que l'ombre et la lumière, on a besoin d'ombre pour apprécier la lumière, mais s'il y avait du jour 24 sur 24, ça pourrait peut-être nous gêner aussi, on le voit bien aussi. Hein, donc, oui. Si c'était toute l'année comme ça, donc, et inversement, si c'était l'ombre. Donc, c'est pour ça qu'il faut. Il faut bien, quand on commence à admettre ça, on ouvre aussi un chemin de tolérance, de compréhension. Et puis, ce qui est important dans tout ça, pour nous, c'est de rester dans notre intégrité. Quand on a des choix à faire, rester toujours dans son intégrité, même si ça nous fait perdre de l'argent. On aurait pu gagner plus d'argent en faisant ça. Oui, mais on aurait été obligé de faire un compromis. Et si on faisait un compromis, ça veut dire qu'on sort de notre intégrité. Et si on sort de notre intégrité, on sort de notre chemin de vie, tout simplement. Et ça, c'est très mauvais. C'est très mauvais.
C'est vrai. Et justement, comment les mots ou les phrases spécifiques utilisées dans Ho'oponopono sont-ils choisis?
Alors, je dirais tout de suite, ce qu'il faut comprendre, c'est le sens. Et les mots, quelque part, on s'en fiche. C'est pas ça. Parce que ce qui est important, c'est l'intention qu'on a dans notre tête. À partir du moment où on a compris, je demande la transmutation des croyances erronées qui ont amené telle situation dans ma vie, on la demande à ce qu'elle soit transformée en positif, etc. On peut mettre les mots qu'on veut. Moi, c'est les phrases que j'ai trouvées qui me répondaient. Mais après ça, on peut en trouver d'autres. Mais il ne faut pas se rester accroché à ces phrases, en sens que tout simplement, c'est l'intention, la pensée qu'on a derrière qui doit primer sur tout ça. C'est l'intention. Parce qu'en prière, on se dit aussi, OK, mais à qui on demande quand on fait cette demande de transmutation, etc. Là, pour les Polynésiens, ils considèrent qu'on demande à la divinité, à notre divinité intérieure. Après ça, nous, on peut demander au divin, en donnant le nom qu'on veut. On peut demander aux êtres de lumière, aux guides, on peut demander. Et tout ça, si ça ne nous correspond pas, on peut demander à l'univers, on peut demander à la vie. Si ça ne nous correspond toujours pas, on peut demander à notre conscience, à notre inconscient, à notre être intérieur, etc. Le principal, c'est toujours d'être en adéquation avec ses pensées. Et ça aussi, c'est très important. Parce que si je vous dis, demander à telle divinité que c'est pas quelque chose, c'est pas, vous n'y croyez pas, c'est complètement. Donc, il faut toujours être en adéquation avec ses pensées. Mais ce que je dirais aussi, c'est que quelque part, on demande sans forcément nommer à qui on demande et ça fonctionne très bien aussi.
Comment la spiritualité peut-elle guider le processus de manifestation à travers le Ho'oponopono?
Big. Tu m'en poses des questions. Si tu veux, je pense que les deux sont liés. C'est que le Ho'oponopono et je dirais la sagesse polynésienne nous mène à la spiritualité. Et puis inversement, qu'est-ce que c'est que l'éveil spirituel? L'éveil spirituel, j'essaie toujours de dégrossir ce terme qui fait peur. On se dit, oh là là, comment je fais pour être en éveil spirituel? Qu'est-ce que je peux faire? Quel est le bouton à appuyer, etc. Mais les choses sont très simples. C'est qu'à partir du moment où on commence à se poser la question avec le chemin spirituel, à se poser la question, qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette vie, dans cette vie? Après ça, quel est le sens de la vie? Quel est le sens qu'il y a après la vie, etc. Et donc là, voilà, c'est des éléments qui sont importants à comprendre. Et donc, on est commencé à faire l'éveil spirituel. Excuse-moi, je vais te demander une petite seconde parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit problème chez moi. Donc, je reviens dans une seconde. Excusez-moi, les amis.
Je t'en prie. Sujet intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Merci. Sujet intéressant. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions que je transmettrai à Luc.
Je reviens. C'est réglé.
OK.
Il fallait que j'y aille, excusez-moi, parce que j'entendais du bruit et des machins, et c'était pas normal. Et voilà, j'allais voir un peu de quoi il s'agissait, parce que je suis tout seul chez moi, là, ce soir. Voilà, alors je remets la caméra, excusez-moi. C'est le problème du direct. Voilà. Et oui, alors c'est pour ça que la notion de spiritualité, en ouvrant justement toutes ces questions, d'un seul coup, ben, on s'aperçoit aussi que nous avons des éléments qui sont des éléments de souffrance en nous. On a aussi des éléments qui font qu'on a des envies, on a des choses, on a des pulsions, etc., qu'il faut apprendre à maîtriser. Et donc, quelque part, ça nous amène aussi du côté de Ho'oponopono, de comprendre qu'il y a des choses à nettoyer pour retrouver notre chemin et notre chemin vers la lumière. Voilà.
OK. De toute façon, on peut dire qu'en quelque sorte, Ho'oponopono peut s'assembler aussi avec la spiritualité.
Ho'oponopono, c'est ce que je te disais au tout départ, c'est qu'il fait partie de la sagesse polynésienne, avec le aloha, l'amour, avec le pono, la droiture, le ho'oponopono pour nettoyer, et la spiritualité. C'est-à-dire, c'est que nous sommes des êtres spirituels et on est justement sur cette terre pour, c'est la fameuse mission de vie, en fait. La mission de vie qui est appelée à tort mission de vie, qui donne l'impression que c'est un but, alors que la mission de vie, c'est le chemin de vie qui va nous mener. Et sur ce chemin, on a des expériences à vivre, qu'on a choisies d'ailleurs souvent avant de venir dans notre incarnation. Enfin, c'est moi qui considère ça. Et donc, ces mémoires, ces expériences qu'on a à vivre, il y en a qui sont positives, mais il y en a qui sont douloureuses, et justement, on doit les surmonter, et Ho'oponopono nous apprend à les surmonter, et ainsi on continue d'avancer vers d'autres expériences qui seront ce qu'elles seront, on verra bien. Donc c'est le cheminement, et c'est pour ça que on n'aura jamais la finalité, peut-être à la fin, mais on n'a jamais la finalité de ce qu'on est venu faire. On n'est pas, veut dire qu'on est venu pour devenir un grand guérisseur, un grand politique, un grand dirigeant, un grand. Ça, c'est l'ego qui parle. L'ego et ces situations où on est en position de grandeur ne sont pas forcément les meilleures places pour faire évoluer notre être intérieur, parce qu'il y a beaucoup de tentations. Je n'irai pas plus loin dans les explications. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ça ne doit pas toujours être facile pour ces gens de résister, de continuer à conserver cette intégrité au milieu de tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de petite mission. Il n'y a que des belles missions, il n'y a pas une petite ou une grande, on est là pour simplement évoluer sur notre chemin de vie, et donc on n'aura pas jamais une finalité, il en aura toujours la direction à prendre et à suivre, c'est tout.
Ok, alors il y a Emmanuel qui te pose une question, je vais essayer de la mettre. Alors, tac. Voilà. Emmanuel Griot. Je fais Ho'oponopono aussi juste pour remercier. Et juste que mes paroles, mes pensées et mon cœur soient alignés. Qu'en pensez-vous ?
Je ne comprends pas très bien la question. Je suis en train de la relire et je pense qu'on arrive un petit peu plus à, parce que Ho'oponopono, à ce moment-là, il faudrait faire Ho'oponopono pour effacer les mémoires erronées qui pourraient m'empêcher d'avoir des paroles, des pensées, des actions injuste, choses comme ça. Faut prendre, c'est plus de l'autre côté. Là, on va demander à effacer. C'est un peu ce qu'on peut faire d'ailleurs dans la journée. C'est de demander, par exemple, en se levant, que toutes les mémoires erronées qui pourraient venir gâcher ma journée soient effacées. On peut le faire à l'avance. Moi, je l'ai fait déjà plusieurs fois. C'est pour ça que je le fais en ouvrant ma boîte aux lettres et je demande à ce qu'il n'y ait pas de facture et qu'il n'y ait que des chèques à l'intérieur. Ça marche très bien. J'arrive pas à... Non, je plaisante, mais c'est le... On a en possibilité toujours de demander et des choses qui sont positives. Moi, j'avais le cas avec un monsieur qui m'avait téléphoné et qui était un monsieur qui était très compliqué, très procédurier, gentil au demeurant, mais c'était les conversations étaient très, très difficiles, si tant est qu'on pouvait même pas converser parce que c'était qu'un grand monologue. Et donc, je savais qu'il fallait que je le rappelle, et avant de faire l'appeler, j'ai fait Ho'oponopono sur cette conversation, sur les croyances erronées, qui allait amener qui risquait d'amener encore une conversation qui était à un seul sens et qui était difficile. Et quand j'ai pris le téléphone, c'était oh, bonjour Luc, comment ça va, machin, et il faudrait qu'on se revoie, qu'on se prenne un petit verre ensemble, qu'on discute, etc. Charmant et complètement ouvert cette fois-ci. Donc, on peut aussi travailler sur les éléments du futur. Par contre, pour ce monsieur, on peut aussi voir les choses autrement. Donc, on peut demander d'effacer toutes les mémoires erronées qui empêcheraient justement de. Mais aussi, on peut aussi faire utiliser la loi d'attraction, c'est-à-dire utiliser je demande, là je fais l'appel, parce que ça c'est l'autre facette dont je voulais parler. Ho'oponopono, vous l'avez compris, c'est ça utilise la loi d'attraction, hein, tout simplement à cause de mes pensées erronées. Mais on pourrait se dire, là on efface des pensées, des situations désagréables, mais on pourrait aussi se dire je vais déclencher des situations que je veux, qui sont agréables, en changeant mes pensées, en dirigeant mes pensées. Vu que je suis dirigé par mon inconscient, je vais écraser quelque part mon inconscient pour amener des pensées que je souhaite mettre dans ma vie. Et donc là, on va utiliser la loi d'attraction directement en demandant justement, par exemple, que toutes mes actions, toutes mes paroles, tous mes actes soient en rapport, soient dans la bienveillance, etc. Donc c'est l'autre facette, le Ho'oponopono efface le négatif, la loi d'attraction va attirer ce qu'on a envie de déclencher dans notre vie de positif. Et là, il y a beaucoup d'incompréhension dans cette loi d'attraction, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont laissé tomber plus ou moins cette loi d'attraction d'ailleurs, parce que ça ne marchait pas. Et je peux pas répondre à tous pour ça, pour dire pourquoi ça ne marche pas, mais ce qu'il faut, ça, il y a quand même quelques petites règles à bien savoir au départ. C'est que, mis à part si vous demandez une place sur un parking, il n'y a pas besoin de réfléchir à 36 fois, et ça marche bien. La dernière fois que je l'ai fait, j'ai ri parce que j'avais du mal à trouver une place de parking et qui était plein. Je m'arrête pour faire la demande, je réouvre les yeux, mais pour bien, parce que là, ça commençait à me chauffer la tête de ne pas trouver de place. Je réouvre les yeux et je vois, mais devant moi, une place de parking qui était libre, elle était devant moi. Et je ne l'avais pas vu quand je m'étais arrêté, évidemment. Et donc, j'ai beaucoup ri ce jour-là, parce qu'ils sont des petits plaisantins aussi là-haut. Donc, ils font des petits trucs comme ça. Et donc, Ho'oponopono, quand on demande des choses, la loi d'attraction, quand on demande des choses importantes, il faut prendre le temps de bien réfléchir à ce qu'on veut. Et ça, c'est très important. Il faut prendre le temps de bien réfléchir à ce qu'on veut, parce qu'il ne faut pas être après à changer sans arrêt, etc. Après, une fois qu'on a bien déterminé, on va faire la demande. Mais là encore, il faut prendre le temps de faire la demande, consciemment. Je disais, les mots, comme tout à l'heure, les mots ne sont pas les plus importants, c'est l'intention que vous avez dans la tête qui est importante. Et donc, il ne faut pas hésiter à la renouveler. Il ne faut pas hésiter à inclure les autres, parce que plus vous allez inclure les autres, c'est-à-dire que si vous demandez une augmentation à votre patron, bah demandez-la pour tous vos collègues de travail. Comme ça, vous êtes en plus dans une action altruiste. Et puis, il faut que ce soit surtout des demandes qui soient faites avec le cœur. Bien sûr, si vous demandez avoir une belle voiture pour épater les copains, bon, ça peut marcher si vous avez vraiment une volonté forte. Mais si vous voulez une belle voiture pour pouvoir transporter vos vieux parents, aller faire des courses ou aller les promener à la campagne le week-end, ce n'est pas le même esprit, c'est déjà plus une demande avec le cœur. Et donc, les lois d'attraction doivent beaucoup, beaucoup répondre à beaucoup plus fortement avec le cœur quand on fait des choses, non pas avec l'ego. Avec l'ego, ça marche aussi, hein, c'est toujours la même histoire. L'univers ne va pas choisir, ne va pas trier. Et puis, souvent, moi, je voyais aussi des personnes me dire, oh là là, moi, je fais la loi d'attraction pendant plusieurs années, et puis je n'arrive pas à trouver l'homme de ma vie. Et puis, je lui ai dit, mais pourquoi, qu'est-ce que vous demandez? Ah bah oui, bah je voudrais trouver un homme qui soit grand, blond, aux yeux bleus, qui soit fortuné, qui soit intelligent, qui aime les vacances, qui soit sportif, qui soit ceci, qui soit cela. Dit, oh, non, j'allais dire un bon. Ensuite, le cahier des charges, il va falloir qu'il se montre à la hauteur, le monsieur. Et puis il dit, je ne trouve pas. Donc, bah, évidemment... Et je lui dis, si au lieu de poser cette question-là, de demander à l'homme avec tout ce cahier des charges, vous demandiez tout simplement à la vie, ou à qui vous voulez, qui vous croyez, demandez tout simplement, je demande plus à la vie, à l'univers, à Dieu, ce que vous voulez, et vous demandiez de trouver l'homme qui vous correspond. Alors, qui sera peut-être brun, gros, bedonnant, mais ça peut être. On s'en fiche de ça. C'est ce qui est important, c'est qu'il soit vraiment l'homme de votre vie. Et puis aussi, si vous avez désiré de faire quelque chose, par exemple, de vous désirez créer quelque chose, eh bien, ne restez pas les bras croisés en attendant que ça arrive. C'est un peu comme cette femme qui cherche l'homme de sa vie. Je lui dis, restez pas enfermé dans votre appartement. Il y a peu de chances qu'il vienne sonner à la porte. Non, tiens, qu'est-ce que vous faites ce soir? Donc, sortez, bougez, faites des activités qui vous plaisent, donnez la possibilité de multiplier des contacts pour que l'univers puisse mieux vous répondre par rapport à ça. Et il y a aussi un autre élément qui est important, c'est qu'il y avait une personne qui me disait, bon, moi, je demande avoir de l'argent. Alors là, de toute façon, combien de personnes essayent d'avoir, avec la loi d'attraction, d'avoir de l'argent? Si ça marchait, on serait tous gagnants à l'euro million. Hein, donc, ouais, mais et je lui dis, ah oui, donc vous voulez de l'argent, mais qu'est-ce que vous voulez en faire de cet argent? Elle m'a dit, ah, bah, si cet argent, bah, à ce moment-là, ça me permettrait de rembourser mes prêts. Si j'ai plus de prêts à rembourser, je pourrais à ce moment-là faire ce que j'ai envie de faire. Ah oui? Et qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ah, bah, j'aimerais bouquiner, j'aimerais aller voyager, j'aimerais m'occuper d'associations caritatives, etc. Il dit OK. Donc, oubliez tout. Maintenant, au lieu de demander de l'argent, vous allez demander à l'univers qui vous donne la possibilité de voyager, de faire partie des associations caritatives, de pouvoir découvrir le monde, etc. Parce que là, ça répond à votre cœur. Là, parce que souvent, il y a des personnes, il y a le but et les moyens. Il ne faut pas dire à l'univers comment il va nous répondre. C'est un peu comme Einstein, on disait à Einstein, arrête de dire au bon Dieu ce qu'il doit faire. Donc, c'était la même chose, là, c'est pareil, il ne faut pas dire à l'univers, apporte-moi de l'argent et puis voilà, je ferai ce que j'en voudrais. Non, il faut, là, si vraiment c'est ça que vous voulez faire au final, eh bien, demandez tout simplement de cette finalité et non pas les moyens de le faire. C'est tout à fait différent et ça n'aura pas la même vibration en vous. Et ça, c'est extrêmement important.
Oui, ouais. C'est clair. Et justement, quel conseil donnerais-tu à ceux qui souhaitent commencer à pratiquer Ho'oponopono?
Ah, pour le Ho'oponopono, et le truc, c'est, à mon sens, c'est de l'essayer sur des petites choses pour commencer. Une petite altercation, un petit élément qu'on a eu du mal à digérer, etc. Commencer par des petites choses pour se mettre un petit peu, pour rôder un petit peu les choses, avec donc de se dire, OK, j'ai eu ce problème au travail avec un de mes collègues. Donc là, je prends le temps pour accepter que c'est moi qui ai attiré cette situation-là dans ma vie, que l'autre n'y est pour rien. Donc ça, c'est le premier point et qui est très, très important, qui est le plus difficile, en fait. Après ça, on va demander à ce moment-là, après, faire la phrase de Ho'oponopono. Soit on fait le Ho'oponopono classique en réfléchissant bien aux explications, soit on fait le Ho'oponopono nouveau que j'ai demandé, que j'ai indiqué en demandant tout simplement la transmutation de toutes les mémoires erronées qui ont amené cette situation désagréable dans ma vie. Mais je demande la transmutation des croyances jusqu'à leur origine première. Et après, à ce moment-là, je demande la transmutation jusqu'à leur origine première. Et à partir de là, je demande à ce qu'elle soit transmutée en éléments positifs pour moi, pour ma vie, mon évolution. Donc là, et on répète à ce moment-là cette phrase-là, en la raccourcissant, comme je l'ai dit. Et puis après ça, on sent au bout d'un petit moment que ça va, que c'est mieux, qu'on est bien.
OK. Alors, Valérie de l'Enclos. Monsieur Bourdin, faites-vous des formations pour être initié à Ho'oponopono?
Non, j'en fais pas. Il faudrait. Mais c'est vrai que je suis bien occupé. C'est vrai que là maintenant, je travaille surtout un peu comme ce qu'on fait ce soir par Internet, c'est tellement plus facile pour tout le monde que de trouver une salle, les déplacements et choses comme ça. C'est vrai, ça perd le bénéfice, mais il faudrait. Parce qu'il y a des techniques aussi qui sont intéressantes à faire connaître. On parle de Ho'oponopono, je pourrais parler de la méthode Aura, on pourrait parler de la loi d'attraction, on pourrait parler de beaucoup d'autres éléments qui seraient intéressants à transmettre. Mais problème, c'est que j'ai que des journées de 24 heures. Et puis, ben, comme vous le savez sans doute, déjà, je fais pas mal de choses sur YouTube avec des soins énergétiques intemporels pour tout le monde. Je fais donc, avec des rassemblements, avec des méditations, ce qui me prennent beaucoup de temps déjà. Mais je ne désespère pas.
De toute façon, on peut les trouver dans tes livres.
Oui, tout ce que il y a le livre que je conseille, c'est le Ho'oponopono nouveau. Non pas parce que dans ce livre, il va y avoir, on reparle de la sagesse polynésienne, on parle des Ho'oponopono, j'explique le Ho'oponopono traditionnel, j'explique le Ho'oponopono classique et j'explique le Ho'oponopono nouveau. Chacun, comme ça, choisit ce qui lui plaît. Il y avait une personne, elle me dit, je préfère faire le Ho'oponopono classique que le Ho'oponopono nouveau. Moi, je dirais, c'est pas un souci. Hein. Moi, je préfère l'autre parce que je trouve qu'il est plus rapide et pour plein d'autres choses, mais on est libre par rapport à ça. Chacun est libre de choisir. Et donc, ce Ho'oponopono nouveau est bien, mais il y a un problème qu'il faut. Ce livre est bien, mais il y a un problème que je dois tout de suite vous signaler si vous achetez ce livre et que vous le lisez. C'est que quand on le lit, eh ben, on a tous envie de partir à Hawaï. Mais bon, mis à part ça, c'est bien.
Ben, c'est bien de partir à Hawaï.
Oui. Ben, c'est un endroit qui est assez magnifique et ça a apporté un nombre de choses incroyables. Par exemple, les tatouages, t'es polynésien, il y avait beaucoup au niveau de la Polynésie, le surf, qui était les danses polynésiennes, la shaka, qui était le bonjour, etc. Il y avait le baiser polynésien, il y a plein de, l'arc-en-ciel polynésien, il y a plein de choses qui nous sont apportées par la Hawaï, on s'en aperçoit plus maintenant parce que tout est mélangé, mais c'est une belle île et c'est vrai que dernièrement, là, quand il y a eu ce gros incendie à Maui, ça m'a fait une peine immense parce que c'était vraiment un endroit magique.
Oui, c'est triste surtout pour les personnes qui sont, bah, malheureusement, qui sont parties. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties et c'est vrai.
Dans la souffrance, et c'était, ça a été tellement rapide, tellement brutal. Bon, c'est comme ça. C'est comme toutes ces catastrophes avec les tsunamis, avec les éruptions volcaniques, les éruptions solaires, tout ça. Ce sont des calamités qui frappent, au hasard, en espérant que ce soit une calamité naturelle, ce que certains remettent en cause, mais peu importe.
Est-ce que justement cette méthode peut être résumée à du nettoyage émotionnel uniquement ou bien d'autres mécanismes sont impliqués?
Non, c'est surtout un nettoyage émotionnel. Oui, c'est pas émotionnel, ça va au-delà des émotions, à mon sens, parce que c'est vraiment un élément qui agit sur beaucoup de situations et ça va au-delà des émotions. C'est vraiment dans les situations aussi conflictuelles, etc. Alors, bien sûr, toutes les situations conflictuelles, on peut toujours les résumer à une émotion qui est sous-jacente, mais je pense que ça va au-delà parce que ça nous permet véritablement de retrouver notre équilibre, notre juste place, ça, au sens.
Ok. Et est-ce que justement ce besoin de pratiquer peut, pour chacun de nos problèmes, ou cela, ça agit dans son globalité?
Ça agit dans sa globalité si on travaille bien avec le Ho'oponopono qui efface jusqu'à l'origine première. Tout à fait. Parce que ça va enlever tout le cheminement qui a conduit. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a énormément de pensées, de croyances, de valeurs erronées. Et donc, c'est un peu. C'est pour ça que la vie, quelque part, c'est une suite d'expériences. Et ces expériences, bah justement, quand elles sont péjoratif, elle nous montre ces situations, ces croyances erronées, et au fur et à mesure de notre chemin, on va les effacer. les unes après les autres. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, comme je le disais tout à l'heure, on retrouve l'essence de notre être. Et au fur et à mesure, on avance de plus en plus en élevant notre niveau vibratoire. On élève notre esprit, on s'élève vers la spiritualité, etc. Parce que grâce à ça, on enlève les boulets que nous avons aux pieds et qui nous maintiennent dans les émotions négatives, dans les situations conflictuelles qu'on veut pas résoudre parce que on considère toujours que c'est l'autre qui a raison et qui a tort et que c'est lui qui doit changer et que c'est nous qui avons raison, etc. Alors que le pardon, en fait, au sens large, c'est pas forcément ça. Le pardon, ça veut dire simplement que, ok, moi j'en ai marre, j'ai pas envie de passer ma vie là-dessus, donc toi tu penses ça, moi je pense autrement, eh bien maintenant séparons-nous et puis continuons notre vie chacun de notre côté et arrêtons de porter des griefs contre l'autre inutilement parce que ça nous bloque dans notre chemin d'évolution tout simplement. Et ça nous permet de solutionner avec Ho'oponopono, ça nous permet de passer outre, d'effacer ces situations et d'avancer comme ça. Et c'est ça qui est génial avec Ho'oponopono, parce que si d'un côté on utilise Ho'oponopono pour effacer les éléments négatifs, de l'autre côté avec la loi d'attraction, et si on fait des choses qui répondent à notre cœur, et qu'est-ce qui va répondre à notre cœur le plus fort? Eh bien c'est là encore tout simplement les éléments qui vont être en rapport avec notre chemin de vie, avec notre mission. Donc, plus on va demander des éléments qui sont en rapport avec notre mission, qui sont en rapport avec notre cœur, ça marche ensemble, avec notre être intérieur, ça marche ensemble, et bien plus l'univers va y répondre favorablement parce que ce sera une demande qui sera très forte, elle sera vraiment issue de nous-mêmes.
C'est vrai que c'est quelque chose de. Donc, on peut dire que ça ne fonctionne pas qu'avec nos émotions, ça peut fonctionner avec tout le corps.
Ça, qu'est-ce que tu veux dire par là?
Cette méthode.
Oui. Oui, j'ai bien compris.
C'est plus avec notre essence même.
Oui. Alors, je ne sais pas si c'est ce que tu veux me dire avec le corps. Le corps nous parle aussi.
Oui.
On parle, c'est-à-dire que chaque maladie, chaque organe, chaque articulation, chaque partie de nous-mêmes a une symbolique, représente une symbolique. Et donc, quand il est en souffrance, c'est évident qu'il y a, si on a une arthrose qui arrive, pourquoi c'est arrivé sur ce genou, et pourquoi le genou droit, et pourquoi le genou gauche, pourquoi c'est sur le genou et que ce n'est pas les lombaires, et que ce ne sont pas les cervicales, ou que ce ne soit pas l'épaule. Et tout ça, c'est jamais un hasard. Et c'est que le corps nous parle, il nous montre une souffrance qu'il y a en nous. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre ça. C'est là, par contre, à mon sens, c'est très important de comprendre ce que nous dit ce corps, le message que notre être nous transmet. Parce qu'en fait, si on efface et sans le comprendre, si on guérit même sans comprendre le pourquoi on était malade, quelque part, on a perdu une bonne occasion de comprendre ce que voulait nous dire notre être derrière. Lui, il veut pas une punition, il n'est pas en train de nous embêter pour le plaisir, etc. Il est là simplement en train de nous dire, là, tu vois, par exemple, tu as mal à ton genou, c'est parce que tu es rigide sur tes positions, tu manques de souplesse dans ce que tu fais, donc il faut peut-être assouplir tes pensées, assouplir tes décisions, etc. C'est tout. Et si tu fais ça, tu seras mieux. Et si tu es mieux, tu verras que tu reprendras ton chemin de vie. Et si tu reprends ton chemin de vie, tu retourneras vers la lumière, etc. Donc c'est ça ce que nous dit le corps à travers ça. Donc à mon sens, il ne faut pas vouloir l'effacer sans avoir compris, ou même le guérir sans avoir compris le sens. Et moi, j'étais très triste. Il y a un ou deux ans, j'avais lu un article médical qui expliquait que 60% des femmes qui avaient eu un cancer et qui étaient guéries, ou disons en rémission, comme on dit en médecine, eh bien, 60% n'avaient rien changé dans leur vie. Et ça m'a rendu très triste parce qu'en fait, c'est comme si elles n'avaient pas compris ce que ça voulait dire et qu'elles n'avaient pas compris le sens de la maladie, pris le poids de la maladie, parce que cette maladie était en train de leur dire qu'elle avait besoin de changer de mode de vie, changer de manière de penser, et même il leur indiquait un petit peu le point qu'elle devait travailler. Et si elles n'ont rien changé, je dirais quelque part, je ne veux pas être pessimiste, mais je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais c'est que le ver est toujours dans le fruit, en fait. Et c'est pour ça.
Ouais, c'est vrai que c'est triste parce que moi, je vis une situation. Là, j'ai une dame de mes voisins, de mes parents. Elle avait un cancer, elle a fait de la chimio. Et là, les médecins lui ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire.
Plus rien à faire pour eux.
Voilà.
Pour eux. Et donc ça, c'est déjà honnête de le dire. C'est vrai que même si c'est douloureux et difficile pour la personne, mais c'est que il y a tout un autre d'autres domaines qui peuvent être intéressants. J'ai connu même une personne qui avait fait un livre d'ailleurs et que j'ai connu après, mais qui était revenue d'une situation. Elle était pratiquement en stade terminal, pratiquement, et elle avait fait tout un chemin personnel, un changement de mode de vie, elle a compris le sens de sa maladie, elle a fait un grand chemin spirituel, et puis un grand lâcher prise également, et le miracle s'est produit. Donc moi je suis, faut pas donner de pronostic en ce sens que il y a des choses qu'on n'explique pas toujours, même au niveau médical, et on voit des personnes qui guérissent et les médecins savent pas pourquoi. Et ce qu'il faudrait, c'est justement plutôt s'intéresser à tout ce que cette personne a pu changer dans sa vie au niveau de son mode de vie, dans sa manière de penser, dans ses décisions, dans son évolution personnelle, etc. Parce que il y a toujours des possibilités. Je dis pas que c'est évident quand on est déjà au stade où la médecine peut plus grand chose. La partie est déjà mal engagée, on est bien d'accord, mais c'est pas parce qu'une équipe a perdu 3-0 à la mi-temps qu'elle a perdu tout le match.
C'est ça, mais il est là le problème, c'est qu'on a l'impression que les médecins ne leur donnent pas juste le mot en leur disant il faut que tu changes quelque chose en toi. Non, là, ça change tout. Et le problème, c'est qu'il est là, c'est qu'on l'en laisse dans le tas, comme ça, on dit, bon, bah, il n'y a plus rien à faire, désolé, au revoir et bonne journée. Et donc, oui. Déjà, la personne doit assimiler tout ce qu'on lui a dit, et je pense que non plus, elle n'a pas dû changer des choses en elle, ce qui a provoqué sa rechute, mais on lui dirait, il faut que tu changes quelque chose en toi.
Et oui, mais ça ne fait pas partie de la pensée de la médecine conventionnelle. Bon, et c'est ça un peu le problème de la médecine conventionnelle. Moi, je l'ai exercée pendant 25 ans, donc je l'apprécie et je ne vais pas du tout renier cet aspect. C'est vrai que moi, je travaillais déjà avec les médecines naturelles. En complément, quand j'ai fait ma formation en cancérologie, les autres médecins savaient très bien d'ailleurs que je faisais aussi des médecines naturelles en complément des traitements conventionnels. C'était toujours, pour moi, j'utilise toutes les cartes, je ne vais pas en choisir une, j'utilise tous les outils possibles. Et même il y en avait beaucoup qui me disaient, bah, écoute Baudin, c'est bien parce que c'est bien que ce soit un médecin qui le fasse, et nous on n'a pas le temps de le faire, et donc ce soit bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse le faire et qu'il soit médecin, c'est encore mieux. Donc c'est vrai que c'était la notion, les personnes sont, il y a plein de médecins qui sont bloqués, mais il y a plein de médecins qui sont ouverts à ce genre de choses. Et le problème, c'est que aujourd'hui la médecine ne voit pas d'autres solutions que par elle-même. Donc il pourrait dire, bah écoutez, nous on n'a plus de solution. Regardez avec les médecines naturelles, avec la médecine symbolique, avec la médecine spirituelle, s'il n'y a pas quelque chose que vous pourriez faire. Donc, ok, nous on peut plus, mais voyez ailleurs. Il y a des choses qui peuvent peut-être vous aider à vivre avec aussi. C'est pas même sans guérir, vivre avec tout simplement. Il y a des choses, mais toute maladie demande au patient de changer, c'est tout.
Ouais. Mais je pense aussi que le fait que les médecins ne sont pas à l'écoute
J'aurais pas de. Je rentrerai
Non,
pas
mais
dans.
l'écoute plus profonde.
Je rentrerai pas là-dedans parce que il y a de tout, comme dans toutes les
Oui.
professions. Quand je vais chez le coiffeur, il y a des coiffeurs avec qui on va avoir des conversations. C'est comme le chauffeur de taxi, on va avoir des conversations sur le temps, le machin, etc. Il y en a d'autres, on va avoir une conversation philosophique extraordinaire. Et donc, c'est comme dans toutes les professions. C'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement par rapport. Et là encore, on tombe dans le Ho'oponopono. On attire toujours ce que l'on pense consciemment ou souvent inconsciemment. Donc rien n'est lié au hasard. Rien n'est lié au hasard. Donc il y a des médecins que je connais qui sont très ouverts. Il y a des personnes qui ont un cœur sur la main et qui se dévouent pratiquement 24/24, 7 sur 7, etc. Il y a de tout. Faut pas. Là, je défends un petit peu, mais le côté aussi terrible, c'est que c'est la pénurie. La pénurie de médecins, la pénurie d'infirmières, etc., qui fait que bah, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Et puis, de forcément passer le temps qui conviendrait pour chaque patient. Et ça, c'est terrible. Hein. C'est terrible par rapport à ça. Et il y en a beaucoup qui sont frustrés. Combien d'infirmières, combien de médecins ont mis la clé sous la porte parce qu'ils n'en pouvaient plus. Qu'on leur demandait un rendement. Regardez le temps passé dans les urgences.
Ouais.
Pensez même qu'il y a des personnes qui meurent dans la salle d'attente des urgences. S'il y avait eu ça, si ça avait eu lieu il y a 20 ans, ça aurait été les gros titres des journaux pendant 3 mois. Là, maintenant, c'est banalisé. Et c'est parce qu'en fait, déjà, à mon époque, on appelait les urgences, on faisait 24 heures d'urgence, on appelait ça la mine. Tellement c'était épuisant. On commençait à 8 heures du matin, on avalait un casse-croûte à 4 heures de l'après-midi, on allait se coucher à 3 heures du matin pour reprendre le service le lendemain matin. Donc c'était, et encore si on n'était pas réveillé entre deux, donc c'était un travail déjà énorme, mais là ça a été démultiplié. Et je comprends aussi que ces personnes sont débordées. Il y a aussi des contraintes aussi qu'on leur impose en ce sens que. C'est une des raisons d'ailleurs pour que je suis parti aussi, c'est que il y avait les RMO, les références médicales opposables. On l'a vu par exemple avec le Covid, les médecins n'ont pas été libres de prescrire. On leur a dit, il faut prescrire ça. Et ça, et si vous sortez, si vous prenez d'autres, si vous leur prescrivez autre chose, vous allez être puni du Conseil de l'Ordre, etc. Et là, ça a été mis en exergue. Mais c'était
Oui.
comme ça depuis longtemps sur un certain nombre de pathologies. Moi, je faisais de la médecine avec de l'acupuncture, de l'homéo, de la phyto, de l'aromatothérapie. Je donnais aussi de la médecine conventionnelle parce que quand je la donnais, c'est que je n'avais pas le choix. C'est qui était le meilleur traitement pour mon patient. Mais quand je le pouvais, je faisais des traitements autres. Mais là, aujourd'hui, je ne sais pas, on est frictionné. Donc, si on fait une prescription et qu'avec les médecines naturelles et que ça se passe mal, on va nous tomber dessus parce que on n'a pas fait le traitement conventionnel. Et peut-être que si on avait pris le traitement conventionnel, ce serait passé mal aussi, ou peut-être même pire. Donc on est coincé. Les médecins sont entre le marteau et l'enclume en fait. Hein, et tout ça avec une pression et la pression des caisses d'un côté. On surveille maintenant les arrêts de travail. Enfin, ça a toujours été, etc. Donc il faut qu'on donne des explications pourquoi on fait un transport, pourquoi faire le transport à coucher, alors pourquoi le patient pourrait peut-être pas être assis, ça pourrait coûter moins cher. J'avais même un collègue qui était chef de service en cardiologie et que je connais bien, on avait fait nos études ensemble et puis il me dit, mais tu sais, de temps en temps, quand il y a un patient qui arrive, et que je lui mets une perfusion avec un produit pour son cœur, de temps en temps, je reçois des lettres de l'administration de l'hôpital pour dire, mais dites donc, vous lui avez fait une perfusion à ce monsieur, vous n'auriez pas pu lui passer ça en comprimé, ça aurait coûté moins cher à l'hôpital. Donc cet homme qui est médecin, chef de service, il va être obligé d'aller s'expliquer à des gens, des administratifs, qui ne voient que la comptabilité. Eh oui. Et c'est pour ça que moi j'ai raccroché la médecine, parce que c'était une médecine qui ne me correspondait plus. Moi je connaissais la médecine de famille, où on faisait partie de la famille, on soignait le père, les enfants, les grands-parents. Et c'était quelque chose de merveilleux. Il savait qu'il pouvait m'appeler quand il voulait. Et puis j'étais même invité de temps en temps au baptême, au mariage, aux communions et aux enterrements aussi, parce que je faisais partie de tous ces éléments-là. Et c'était quelque chose que j'adorais. Et on comprenait bien aussi. On faisait les visites à domicile. Les visites à domicile, on continue aussi, mais là, à cette époque-là, on en faisait beaucoup plus. Et ça permettait aussi de voir comment les personnes vivent, dans quelle situation ils vivent. Parce que, de temps en temps, moi, je me rappelle d'une gamine, de deux gamines qui avaient des bronchites à ne plus en finir. Et tout ce que je donnais, j'avais des bons traitements en homéopathie pour prévenir tout ça. Et ça marchait pas jusqu'au jour où je me suis rendu chez elles. Et là, j'ai vu la catastrophe. Elles étaient dans un logement insalubre, humide, chauffé par un poêle à bois qui fumait. Donc, comment voulez-vous soigner une bronchite? C'est évident que la semaine suivante, elle rattrape tout. Et là, ces personnes, j'ai tout de suite téléphoné à une assistante sociale qui les a relogées dans un logement salubre, parce que quand il y a des enfants, ils passent toujours en priorité. Et puis, d'un seul coup, tous les problèmes médicaux ont disparu. Mais si j'avais pas été... J'aurais pas trouvé. J'aurais dit c'est terrible. Je vois pas ce qu'on peut faire, etc. Alors je dis pas qu'il faut aller tout le temps chez les faire des visites à domicile, parce que ça prend beaucoup de temps et d'énergie, mais d'y aller de temps en temps est pas mal, est intéressant.
Ouais. Ok, Luc. Donc un sujet fort intéressant. On aurait pu passer encore des heures, mais à un moment donné, il faut arrêter. À mes invités, je leur laisse le dernier mot de la fin. Donc, pareil, je te laisse le dernier mot de la fin.
Le dernier mot de la fin. Tous, c'est ce qu'il faut comprendre, et vous le savez, tous autant que vous m'écoutez. Regardez bien, on a toujours, quand on est dans l'amour, quand on est dans la compassion, quand on est dans le pardon, quand on est dans le non-jugement, quand on est dans son intégrité, quand on est dans le partage, l'équité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, nous sommes bien, nous sommes heureux, nous sommes épanouis. Par contre, quand on est dans la haine, dans la jalousie, dans la rancœur, etc., là sont des sentiments qui nous brûle à l'intérieur, qui brûle notre être, et on n'est pas bien. On en veut à quelqu'un, mais ce autre quelqu'un, il s'en fiche complètement. Mais nous, ça nous détruit à l'intérieur. Et nous, on est terrible, parce que malgré qu'on sache que c'est dans le pardon, la compassion, dans l'amour, dans le partage, qu'on est bien, on se morfond souvent dans des situations qui sont terribles, alors que c'est pas ça qui nous est demandé. Il nous a jamais été demandé de vivre dans la souffrance pour évoluer. C'est pas ça. La souffrance physique, morale, tout ce qu'on peut vous imaginer, c'est simplement pour nous dire attention, tu es en train de sortir de ta voie, de sortir de ta route. Donc, si on reprend notre route, eh bien, tout simplement, on retrouve notre équilibre et notre bonheur. Et puis, c'est pour ça que la question est souvent posée de se dire, est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis heureuse? Et donc, si c'est oui, ne changez rien. Mais si c'est non, c'est-à-dire s'il y a certainement des petites choses à changer dans votre vie, pas des grandes, pas tout changer, chambouler, aller soigner des petits lépreux en Afrique, c'est simplement peut-être des petites choses à enlever dans votre vie qui vous pèsent, pour mettre des choses qui vous font plaisir et qui vous amèneront vers la joie, le bonheur. Et la joie et le bonheur, c'est généralement la route de la lumière, la route de notre vie. C'est tout. C'est pas plus compliqué.
Ok. Tu restes encore quelques minutes avec moi?
Avec plaisir.
Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Je vous souhaite un très bon week-end. Surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo et de liker. Vous avez tout plein d'informations en dessous de la vidéo. Je vous conseille d'aller jeter un œil. Vous avez aussi sa chaîne YouTube. Et sur sa chaîne YouTube, vous trouvez pas mal d'éléments. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. Portez-vous bien.